Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Nous allons lire un texte et puis lui donner quelques mots de commentaire. Voilà. Évangile de Jean. Évangile de Jean. Et parfois, eh bien, la vie humaine est étrange. Et c'est précisément cette étrangeté de l'existence qui nous est relatée dans cet évangile, au chapitre 21, si vous voulez bien. Je vais lire une première partie, puis ensuite, ça se suivra avec le commentaire du texte. Alors, Jean, évangile de Jean, chapitre 21, verset 1er. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade, et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher ». Ils lui dirent « Nous allons aussi avec toi ». Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Voilà, ça nous donne un petit peu la nature de ce que nous avons évoqué il y a un instant, les choses étranges qui quelquefois font partie de notre vie. Le grand événement qui nous est rapporté dans ce texte de Jean, c'est que Jésus est ressuscité. Voilà. C'est là ce qui était la préoccupation et le grand questionnement, voire même la perplexité angoissante des disciples. Mais où est-il ? Alors à cela, il y a une autre question qui va être mise en débat dans notre réflexion. Alors, où est-il ? Mais surtout, mais qui est-il ? On l'a connu, on a vécu avec lui, on a partagé tant de choses, mais on n'a pas réussi à comprendre. On n'a pas réussi à saisir qui était Jésus. Alors on va essayer de répondre à tout cela, et c'est peut-être les deux questions que les hommes se posent aujourd'hui, mais où est-il ? Quand on voit l'état du monde, on se dit, Dieu ne doit pas exister. Il semblerait qu'il ait abandonné la partie, il a dû disparaître pour s'intéresser à autre chose. Mais si on va un peu plus loin, mais qui est Jésus réellement ? C'est probablement la question que les disciples, à ce moment-là, après avoir connu Jésus, l'avoir vu mourir, et entre parenthèses, l'entre-apercevoir, parce qu'il s'est quand même montré, et puis il disparaît tout à nouveau. Alors, mais qui est-il cet homme-là ? On voit qu'il est apparu d'abord, et je fais un petit rappel, à Marie de Magdala. Ensuite, à 10 de ses disciples. Ensuite, à Thomas. On sait comment ça s'est passé avec Thomas. Et puis, les disciples sur la route, sur le chemin d'Emmaüs. Et puis, si l'on s'en tient à ce que Paul écrira dans Corinthiens, il dira qu'il a apparu à plus de 500 personnes à la fois. Cette situation se passe, pour décrire un peu le contexte, sur les bords de la mer de Tibériade. Les protagonistes de la scène, il y a Pierre, il y a Thomas, il y a Nathanaël, il y a Jacques et Jean, et deux autres noms, finalement, qui ne sont pas désignés, qui ne sont pas nommés, on ne sait pas qui c'est. Et puis, il y a ce personnage qui apparaît sous la forme d'une silhouette, au petit matin, sur le rivage. On ne sait pas. Alors, on reprend tout simplement le fil de notre... Après cette introduction, nous avons lu que Simon-Pierre dit à ses compagnons cette parole « Je vais pêcher ». Ils lui dirent « Eh bien, nous allons avec toi ». Ils étaient probablement dans un état d'esprit qui les réunissait pour combler un peu leur désœuvrement. Vous savez que pendant 3 ans, on peut dire qu'ils n'ont pas été en chômage, Ils ont suivi Jésus, ils ont fait des choses extraordinaires, ils ont veillé, ils ont entendu des messages, et leur cœur et leurs yeux n'étaient certainement pas assez grands, et leurs oreilles, pour contenir tout ça. Alors, maintenant, on l'a vu mourir. Il est ressuscité, il nous est apparu, mais il a disparu, on ne sait pas où il est passé. Alors, ils sont dans une confusion au moment où nous avons pris ce texte, Et Pierre, qui se souvient de ce qu'il était auparavant, peut-être pour calmer son ennui et son angoisse, il dit à ses compagnons, il dit, mais eh bien moi je vais pêcher. Et les autres, d'un commun accord, eh bien vont le suivre. Eh bien nous allons avec toi parce que nous ne voulons pas rester seuls. Surtout Thomas, hein, ça lui avait joué un mauvais tour de ne pas vouloir, eh bien là, se joindre aux autres. La pêche. Mais c'est un curieux retour en arrière, parce que les hommes que nous avons cités, c'étaient tous des hommes qui habitaient auprès de, ben, dans la région, là, Tibériade, et ils n'avaient connu de leur vie que cela, la pêche, tout simplement, mis à part la parenthèse où ils ont vécu eh bien, tous ces mois et ces années avec Jésus. On va se souvenir que c'est dans une barque que tout a commencé pour eux, en tous les cas pour Pierre, pour Jacques, pour Jean et André. Alors, c'est dans une barque, sur ce même lac, que Jésus a rencontré ses premiers disciples, mais cette fois, les circonstances qui nous occupent ressemblent apparemment, non pas à un commencement, mais à un achèvement, et un triste achèvement. Parce que ils ont été licenciés, on pourrait dire, pour cause d'absence, enfin, absence de celui qui les avait appelés, tout simplement. Et nous voyons que cette aventure exaltante avait duré 3 ans, et ils ne savaient quoi faire de leur vie. Devaient-ils reprendre leur barque? Devaient-ils se remettre au travail? Et puis, avec véritablement qu'un beau souvenir, probablement, un souvenir tragique aussi sur la fin, mais qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Et puis nous remarquons que dans cette circonstance, Jésus n'est pas avec eux. Ils l'ont vu, puisqu'il aurait apparu ressuscité. Mais là, il n'est pas là. Et ils le savent, il est vivant. Mais où est-il? Et la question, mais quel genre d'homme ça peut être pour finalement mourir, renaître, enfin ressusciter, apparaître et disparaître? Alors, c'est quand même pas le commun des mortels, hein. C'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Mais on ne sait pas trop donner une réponse sur cette question qui probablement, eh bien, sans le dire les uns aux autres, sans se le dire les uns aux autres, eh bien, elle doit être certainement dans l'esprit de tous ces hommes qui sont là. Avec Dieu, et je voudrais peut-être ouvrir une réflexion en ce qui concerne nous-mêmes, avec Dieu, quand bien même la vie présente, celle qui est d'aujourd'hui, eh bien, que cette vie-là, si elle nous donne à vivre des discontinuités, comprenez ? L'homme aime bien la sécurité, il aime bien quand c'est une ligne bien droite et que finalement, eh bien, on va jusqu'au bout sans s'arrêter. Mais là, c'est quand même une ligne discontinue, hein. Ils sont là, ils ne sont plus là, il est là, il n'est plus là, etc. Alors, il faut se dire qu'avec Dieu, même si on doit vivre ces discontinuités de l'existence, eh bien, il faut bien se rappeler qu'avec le Seigneur, quand les choses s'arrêtent, qu'on ne comprend pas pourquoi elles s'arrêtent, et que ça semble fini, eh bien, avec Dieu, ce n'est jamais terminé. C'est toujours un point de suspension. Parfois, nous avons besoin de reprendre notre souffle. Parfois, nous avons besoin de nous poser dans le domaine de la foi. Hein? Mais quand on se dit se reposer, c'est façon de toujours tenir la main de Dieu, naturellement, même si on ne comprend pas et on ne sait pas où nous-mêmes. Et on pourra ajouter que c'est dans la foi qu'il faut attendre la suite. Alors peut-être que, hein, pour vous qui êtes ici cet après-midi, et puis peut-être pour ceux qui l'entendront d'une autre manière, ce message, ils sont peut-être justement dans la situation de ces disciples qui se disent, eh bien, moi, ça, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire, mais pour l'instant, il n'y a pas de vent dans les voiles. Ça s'arrête, et ça doit donc être terminé. Mais ce n'est pas vrai, parce qu'avec Dieu, ce n'est jamais un point final, il y a toujours un point de suspension. Et Dieu sait pourquoi les choses semblent, eh bien là, en stationnement, semblent inertes à un moment ou à un autre. Alors, les 7 compagnons dont nous avons lu l'élan tout à l'heure vont prendre la décision d'aller à la pêche. Remarquez, je vous dirais, vaut mieux encore faire quelque chose que ne rien faire et se mettre la tête dans les mains à se morfondre et à déprimer. Ils se sont dit, la seule chose qu'on sait faire, eh ben, c'est d'aller pêcher. Parce que ça, c'était leur métier auparavant, naturellement. Et il faut bien vivre malgré tout. Parce qu'aller à la pêche, ça voulait dire manger. Pour eux. Et puis peut-être hein, par la suite. 3 années auparavant, nous rapporte le texte, ils avaient entendu cette autre parole de la bouche même du maître quand il leur a dit « Je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Et là, ils redeviennent des pêcheurs de poissons. Hein? Ils n'en avaient pas pêché beaucoup parce que pendant les 3 ans, c'est surtout Jésus qui jetait les filets. Et des filets extraordinaires, surnaturels et formidables. Mais eux, jusqu'ici, eh bien, et pourtant, il leur avait dit « Vous serez mes témoins, et aller partout le monde. Et là, le monde, eh bien, il se limitait tout simplement à un petit peu de rivage, là où d'où ils étaient partis. Ça n'allait pas très loin. Donc, Jésus leur avait dit, mais je vous ferai pêcheurs d'hommes. A priori, après tant de rebondissements, qu'en était-il? Parfois, on se pose des questions, on se dit, mais il y a quand même quelque chose dans ma vie. Je ne me suis pas trompé, je n'ai pas rêvé. Il y a bien certainement un prolongement à tout ça. C'est l'état que nous pouvons ressentir que lorsque nous sommes en stationnement. Vous savez, hein, c'est ça. On attend maintenant que le vent souffle dans une autre direction ou dans la même direction, mais qu'il nous pousse en tous les cas. Et c'est quelque chose de très désagréable, hein, humainement parlant, que d'attendre. Ouais, d'attendre. Surtout que l'attente est d'autant plus difficile lorsque nous avons beaucoup d'espérance, lorsque nous souffrons dans l'attente et lorsque le sentiment s'en mêle. Hein. Vous savez, un sentiment, ça brûle. Hein. Alors, ça peut réchauffer, mais quelquefois, ça brûle et ça dévore. Alors, qu'en restait-il de tout cela? Au point où tout semble se terminer, au contraire, tout va commencer à travers notre texte. Tout va recommencer. On pourrait dire que c'est les premiers pas de cette belle aventure qui dure jusqu'à maintenant, qui est l'aventure de l'Église, l'aventure du témoignage, l'aventure d'une redécouverte de la vie, et pas seulement pour nous, mais la faire redécouvrir aux autres. Et de pouvoir répondre à la question des hommes d'hier comme d'aujourd'hui, mais où est-il? Nous savons répondre. Et qui est-il? Nous avons la réponse aussi. Alors, on comprend déjà que les choses sont en train de se former. Tout va commencer ou tout va recommencer. Dieu nous prend souvent dans des moments ou dans nos moments où nous croyons être le plus éloigné de lui. Je l'ai souvent entendu, ça, hein, de la part des hommes que j'ai pu rencontrer, des jeunes et des moins jeunes, et que quelque part, nous avons le sentiment au fond de notre cœur que plus rien ne se réalisera de nos espérances. Je voudrais simplement rappeler que Dieu n'oublie jamais. Nous pouvons oublier, nous pouvons, c'est vrai, zapper, on le dit, hein, mais Dieu n'oublie jamais. Alors, on va continuer, il nous est dit qu'ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, et vous allez voir que ce n'est pas très enthousiasmant, ils ne prirent rien. Qu'est-ce que tu fais, Seigneur? On connaît notre travail, on sait comment aller à la pêche. Il fait noir, on sait qu'on pêche de nuit, on a une barque, on a des mains, on a certainement des filets, mais nous revenons et puis il n'y a rien du tout. Il semblerait que ce soit encore un refoulement supplémentaire, que ce soit encore un stationnement imposé à ce moment-là. On ne peut rien faire. Alors on peut imaginer la déception, voire le découragement des disciples, parce qu'ils ont quand même passé la nuit. Ils sont harassés, ils sont fatigués, et rien dans les filets, rien à ramener. Pouvait-il douter à ce moment-là, à cette heure-là, pouvait-il douter de Dieu et d'eux-mêmes? Parce que ça les renvoie à eux-mêmes. Douter de Dieu, bon, il est invisible, on ne sait pas toujours ce qu'il va faire, mais quelquefois de nous amener à douter de nous-mêmes. Mais est-ce que je suis vraiment où j'en suis, hein? Où j'en suis? Mais ce sont des questions pertinentes parce que, quelque part, elles creusent un petit peu le chemin sur lequel, eh bien, le Seigneur nous appelle à marcher pour que nous puissions vraiment le rencontrer. Mais le rencontrer profondément, le rencontrer encore un peu plus. S'il arrive parfois un chrétien, un enfant de Dieu, un croyant, eh bien, d'avoir connu quelque chose du Seigneur, eh bien, le Seigneur va permettre que nous allions encore beaucoup plus loin. Et de dire un petit peu à la suite d'une épreuve ou peut-être d'une tribulation ou d'une grande difficulté dans la vie, comme Job le dira, « Ah, j'avais entendu parler de toi, mais aujourd'hui, mon œil t'a vu. Hein. » C'est autre chose. C'est que je suis passé finalement de la théorie à l'expérience, et c'est bien ça ce qui va se passer, l'expérience, elle est indispensable à la vie de la foi, à la vie d'un chrétien, l'expérience. Ces hommes qui sont là, savaient-ils encore prendre du poisson? Ils pouvaient en douter. Parfois, combien la vie, nos efforts ou nos espoirs nous apparaissent vains et inutiles. Et c'est ce qu'on appelle le découragement. Oui, à un moment donné, on a tout fait comme il fallait. Puis on se dit, mais à quoi bon continuer? Et vous savez, quand on est découragé, je le dis souvent, et vous allez l'entendre encore cet après-midi, je me le dis aussi à moi-même, quand on est découragé, il ne faut jamais laisser, il ne faut jamais baisser les bras. Parce que c'est souvent à ce moment-là, et nous allons le découvrir, que tout repart. C'est pas facile, hein? Ce sont des belles paroles. Hein, mais quand on doit les vivre, c'est pas pareil. Mais quand on les vit seul, c'est difficile. Mais quand on sait qu'il y a le Seigneur qui, lui, peut-être, nous a pas tout dit, tout montré, tout révélé, eh bien, là, Ils nous font un peu de curiosité. Qu'est-ce que tu vas faire, Seigneur? Je suis coincé, j'ai un mur devant, un mur derrière, et devant moi, une montagne, devant et derrière. Qu'est-ce que je peux faire? Seigneur, je voudrais me souvenir que tu nous as dit que tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alors, je ne vais pas chercher à comprendre, je vais croire. Aide-moi à croire. Aide-moi à te faire confiance. Le matin étant venu, pour reprendre notre texte, Jésus se trouva sur le rivage. Nous, on le sait. Jean l'a écrit, mais il l'a écrit après. Nous, on le sait. Mais eux ne savaient pas que c'était Jésus qui était sur le rivage. Jésus se trouva là. On s'imagine, le jour se lève, et il y a quelqu'un, alors qu'ils sont peut-être à quelques encablures encore de la côte, ils arrivent découragés, on l'a dit il y a un instant, et voilà qu'ils voient un personnage, un homme. Oui, bien sûr, forcément un homme. Et cet homme est en train de regarder. Il est installé sur le rivage, il regarde la barque qui s'approche. Pour nous dire que Jésus n'est jamais très loin de ceux qui s'interrogent sur le sens à donner à leur vie. Là, ils étaient en pleine perplexité, nos amis. Ils étaient en train de se donner, quelque part, des réponses à ce qu'ils allaient devenir, ce qu'ils allaient faire. Ils n'étaient plus capables d'être le suivant de ce grand prophète de Nazareth. Ils n'étaient plus capables de pêcher du poisson. Qu'est-ce que l'on peut faire? Si vous avez appris un métier et que vous n'êtes plus capable de le faire, là, on peut s'inquiéter. Et malheureusement, notre société, elle est pleine de gens qui ont des compétences, des qualifications, des diplômes et des surdiplômes, et qui se disent « Mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir ?» C'est un drame. Hein? C'est une tragédie de notre société d'aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Les pourquoi et les comment, c'est très embarrassant. Mais nous voyons que ça se passe le matin. Le matin, on l'appelle aussi l'aurore. Hein? Et permettez-moi d'ajouter, c'est que l'aurore apporte avec elle la promesse de la clarté, d'un nouveau jour, c'est-à-dire d'y voir plus clair. Et pourtant, les disciples ne savaient pas que c'était Jésus qui les regardait approcher de la côte, et cet homme sur le rivage qui était tout simplement allé regarder n'était plus ni moins que Jésus. Jésus savait ses disciples, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. C'est étrange. Ils avaient seulement, comme ils l'avaient déjà fait une première fois dans la tempête, vous vous souvenez, toujours sur le même lac, dans une barque, où il y a eu un tourbillon étonnant qui est arrivé sur eux, qui a fondu sur eux, ils avaient bien reconnu une silhouette. Vous savez ce que c'est qu'une silhouette? On peut s'imaginer, c'est une ombre. Mais derrière la silhouette, il y a un personnage. Mais parce qu'il y a justement un reflet, parce qu'il y a une lumière qui projette, eh bien tout simplement les formes confuses de cette personne. On ne voit pas la personne, mais on voit la silhouette. Et ils en étaient là, les pauvres. Comme il y a des milliards, et oui, des milliards, excusez-moi, hein, mais je ne suis pas excessif dans la quantité, mais comme il y a des milliards et des milliards d'hommes dans notre monde qui ne voient que de Jésus une silhouette, ou une statue, ou ce qui n'a pas de vie en réalité. Parce que la vie, elle n'est pas dans la silhouette, la vie, elle est dans la personne, même s'il y a une projection. Et il faut de la lumière pour voir. S'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'ombre. Et la silhouette, c'est une ombre, tout simplement. Mais il devait s'interroger, mais quel est cet homme-là, de bon matin, qui marche sur la plage? Et il devait se dire, mais il semble attendre. Peut-être nous attend-il, ça suppose. Et vous savez, on leur ressemble aux disciples, hein. Quelquefois, on est en train de ramer dans une mer sans vagues, sans marée, hein, sans agitation. Ça ne bouge pas, c'est terrible. Et pourtant, il y a quelqu'un qui est là. Nous ne le reconnaissons pas. Nous nous méprenons. Dans un autre cas, il pensait que c'était un fantôme. Et nous ressemblons à ses disciples. Et pourtant, ce n'était pas la première fois qu'il se trompait. Eh bien, les gens, dans leur imagination religieuse, ou dans leur tout ce qu'ils peuvent penser de préjugés ou d'idées préconçues, sont tout à fait à côté. Et nous voyons que sur le chemin d'Emmaüs, si je ne prends que cet exemple, il nous est parlé justement de ces disciples, de ces deux disciples qui rentraient de Jérusalem à leur village. Il nous est dit que Jésus était avec eux, Jésus leur parlait. Il était en train de marquer finalement la conversation par des choses que ses disciples savaient pertinemment. Moïse et les prophètes, la loi, la parole, etc., etc. toutes ces paroles, et il nous est dit que leurs yeux étaient empêchés de le voir. Seigneur, ouvre-nous nos yeux. Ouvre les yeux des hommes. Ouvre les yeux des cœurs des hommes. Hé ! Empêchés de le voir. Et quelquefois, nous-mêmes en tant que croyants et chrétiens, il semblerait qu'il y ait des empêchements à vraiment reconnaître Jésus tel qu'il est. Tel qu'il est, tel qu'il peut, tel qu'il veut pour nous bénir et nous fortifier. Parce que nous sommes empêchés de le voir. Qu'est-ce qui pourrait nous empêcher de le voir ? Ah, il y en a des choses qui nous encombrent, que nous traînons au fond de nos cœurs et de nos âmes, dans nos esprits, dans nos pensées agitées. La première chose, c'est véritablement l'incrédulité. Oh, est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est possible ? Eh oui. Ou alors le doute, qui nous fait chavirer tantôt d'un côté. Alors là, la mer, elle est agitée quand il y a du doute. Et on ne sait plus se tenir. Dans notre vie d'homme, mille fois et de mille manières, Jésus nous approche. Et aujourd'hui, maintenant, au moment où nous parlons, et malheureusement, nous ne savons pas le reconnaître. Ce serait formidable dans notre vie si nous avions plus de perspicacité que l'on appelle spirituelle. On n'en serait pas là. On serait des géants de la foi, vous rendez compte ? Ce serait formidable. On ne se plaindrait pas. On ne gênerait pas. On ne dirait pas nos misères au monde entier. Parce qu'on saurait à ce moment-là beaucoup plus que ce que nous savons aujourd'hui. Et pourtant, le Seigneur nous a renfermés dans cette prison. Dans cette prison, pour que nous puissions, eh bien, exercer notre vue, celle de la foi, à le reconnaître. Parce qu'à partir du moment où nous le reconnaissons, eh bien, le monde, notre vie s'illumine, naturellement. Oui. Vous savez, un homme comme Paul, qui a été élevé dans toute la sagesse des Juifs, au pied de Gamaliel, qui connaissait la parole de Dieu, qui connaissait la loi de Moïse, qui connaissait les prophètes, enfin, tout l'Ancien Testament. Quand il a été sur le chemin de Damas, lui qui croyait connaître le Seigneur, vous savez ce qu'il a dit, le premier cri, parce que c'est un cri, quand le Seigneur lui est apparu, il lui a dit « Mais qui es-tu, Seigneur ?» S'il y a quelqu'un qui devait le savoir, c'était Paul. Eh bien non, il ne savait pas. Et le Seigneur lui a dit « Mais non, tu ne me connais pas, tu ne m'as pas reconnu, c'est celui que tu cherches depuis toujours. » Je suis dans l'Écriture, je suis dans la parole que tu lis, je suis dans partout, et tu ne m'as pas vu encore. Nous allons remarquer avec quelle simplicité Jésus interpelle, et dans des choses si ordinaires où nous penserions jamais que Dieu, auquel il s'intéresse. Oui, auquel il s'intéresse, preuve avant tout pour chacun de sa sollicitude pour ses créatures dans le besoin. Et là, à ce moment-là, eh bien, Jésus dira à ses disciples, « N'avez-vous rien à manger ?» Oh, c'est déconcertant, Ils n'ont rien pris. Ils ont la faim qui noue leur estomac. Et voilà un individu qu'ils ne connaissent pas et qui demande à manger. Comme quelqu'un qui arriverait à l'arrivée d'un bateau, ça peut arriver ici, en pensant que les pêcheurs ramènent une gargaison, finalement, de nourriture, et qu'à la fin, eh bien, les cales sont vides et puis qu'il n'y a rien du tout. Et que lui, en plus, il vient... réclamer sa part alors qu'il n'a même pas travaillé, qu'il n'a rien fait. N'avez-vous rien à manger ? Eh bien justement, c'est ça. Et la question, elle est pertinente. Parce que si Jésus dit « N'avez-vous rien à manger ?», il veut susciter une réflexion pour ses disciples, celle de la faim, celle de la soif, de la peine et de la souffrance. Parce que si en apparence c'est lui qui demande de savoir s'il y a quelque chose à manger, ça veut renvoyer finalement la question en disant « Mais vous, vous avez faim, vous avez soif, vous êtes dans la peine, dans la misère, et c'est vers moi que vous devez venir pour que je vous donne ce que vous avez besoin. Et pas une nourriture matérielle, mais quelque chose de beaucoup plus grand. Comme la Samaritaine, si vous voulez, en quelque sorte. Et n'est-ce pas par là que Dieu veut nous parler et nous secourir dans la mesure où nous l'entendons, et il l'avait entendu, et que nous le laissons faire. Oui, Seigneur, j'ai faim. J'ai faim de toi. J'ai faim de vérité, j'ai faim de justice. J'ai faim d'une autre vie. Moi, ce matérialisme, je le rends par les yeux et par les oreilles, parce que finalement, il n'y a aucun contentement, aucune satisfaction, que l'usage que nous pouvons en faire, normal. Mais autrement, le reste, ce n'est pas ce qui rend heureux. Ce n'est pas ce qui donne la vraie joie, la paix, le bonheur. Alors ils vont lui dire, mais non, nous n'avons rien. On n'a rien à manger, on n'a rien à te donner, on n'a même pas pour nous-mêmes. Eh bien, vous savez, ils ont été honnêtes. Enfin, ils n'avaient pas trop le choix parce qu'ils n'avaient rien, ils ont dit la vérité, tout simplement. Mais ça voulait tout simplement qu'ils ont avoué et qu'ils ont reconnu leur insuffisance et leur manque. Et c'est précisément ces insuffisances qui ont permis à Jésus, donc à Dieu, de leur venir en aide de ce que Jésus ne va pas de ce qu'il ne va pas tarder à faire et à accomplir aussitôt. Et il va leur dire, comme il l'avait déjà entendu précédemment, il y a 3 ans auparavant, « Jetez vos filets du côté droit de la barque et vous trouverez. » Tout est préparé. Le Seigneur n'est jamais pris au dépourvu avec nos problèmes et nos difficultés. Nous, si ça nous semble insoluble, pour le Seigneur, c'est un jeu d'enfant, excusez-moi pour l'expression, mais pour lui, et ça, j'ai besoin d'avoir cette plus grande capacité à comprendre que ce que je suis aujourd'hui. Mes besoins de demain, lundi, et puis ceux de la semaine, et puis ceux de dans 5 ans et dans 10 ans, moi je voudrais être convaincu de plus en plus que Dieu a déjà tout préparé d'avance pour moi. Mais dans l'absolu, rien ne va passer à l'écart, mais moi je ne suis pas capable de rester tranquille, de lui faire confiance jusqu'au bout. Alors c'est pour ça que je batifole un peu de droite et de gauche. Quand je dis « je pense que vous pouvez peut-être... Avec le respect que j'ai pour vous, peut-être vous reconnaître aussi, parce qu'on est de la même manière, on est de la même patte, en quelque sorte. Alors il va leur dire, mais vous jetez vos filets du côté droit. Quelle précision du côté droit? Ça aurait été du côté gauche, les poissons, ils passent. Mais il y a des significations dans tout ça. Ouais, nous touchons là la merveilleuse omniscience, un mot compliqué. C'est-à-dire, ça veut dire que Jésus connaît tout. Il sait tout, qui voit ce que nos yeux ne voient pas. Ouvre nos yeux, Seigneur. Il y a un cantique, Ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux. Les disciples avaient faim. Jésus aurait pu, comme à la multiplication des pains, vous en souvenez, ou à Cana au moment du vin, de créer un savoureux petit déjeuner avec café et croissant. C'était pas encore inventé, ça, non? Bon, peu importe. Ils avaient faim. Ils pouvaient préparer quelque chose naturellement. Mais non, il va leur falloir faire ou refaire ce qu'ils ont déjà fait durant cette nuit perdue, mais cette fois dans l'obéissance. Parce que quand ils sont partis, quand on a commencé à lire le texte, c'est eux qui ont dit « nous allons à la pêche ». Ils sont allés d'eux-mêmes. Mais là, Jésus va leur dire « jetez les filets ». Donc, ce n'est plus eux qui vont prendre la décision, c'est Jésus qui leur donne l'ordre, qui leur intime l'ordre d'aller, de faire, ici, par ailleurs, et à ce moment-là, parce que c'est fait dans la foi, et c'est fait dans l'obéissance, et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ils vont ramener du poisson, tout simplement. Mais comment croire un inconnu? Qu'est-ce que c'est que cet homme? Qui es-tu, Jésus? Enfin, qui es-tu, toi? J'appelle Jésus, pour eux, c'était encore un inconnu, pour donner des ordres comme ça. Vous avez quelqu'un dans la rue qui vient vous voir et puis vous êtes embêté dans une situation ou une autre, puis qui vous dit « tu vas faire ceci, tu vas faire ça ». Vous allez leur dire « tu t'occupes de tes affaires ». Ah oui, parce que c'est un inconnu. Si c'est un ami, ça sera différent. Quelqu'un qui est ami, c'est quelqu'un qui est connu. On lui fait confiance. Mais là, ils ont fait un tour de force. Parce que c'était donc un inconnu qui leur demande de faire une chose alors qu'ils n'avaient plus envie de la faire puisqu'ils n'avaient pas réussi. Et ils vont obéir. Et à ce moment-là, eh bien, ils vont ramasser du poisson. Jetez et vous trouverez. C'est des paroles toutes simples que nous avons dans l'Évangile. Jetez et vous trouverez. En d'autres termes, vous faites confiance. Votre foi, vous l'abandonnez entre les mains de Dieu. Et le grand effort à faire, c'était pas de remonter dans la barque, c'était pas de jeter les filets tout à nouveau. Le grand effort qu'ils avaient à faire, comme nous-mêmes, c'est l'effort de croire. Est-ce que je veux croire? Est-ce que je veux encore croire quand j'ai plus envie de croire? Quand j'en ai par-dessus la tête de croire? Seigneur, j'ai essayé 1000 fois et ça ne marche pas. Et le Seigneur nous dit, la 1001e fois, allez, tu jettes ton filet et tu vas trouver. T'es sûr? Oui, mais si le Seigneur nous le demande, c'est qu'il est sûr, lui. Ah ben, le Seigneur est sûr de tout. Moi, je suis sûr de rien. Il y a une chose, parce que je suis sûr de rien, je dois croire ce qu'il me dit. Cherchez, vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Et ils jetèrent le filet, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Imaginez-vous, l'effet que ça fait. Ils avaient tiré toute la nuit, ça venait tout seul. Là, ce coup-ci, c'est trop plein. Faute d'imagination pour prêcher l'évangile. Hein. Non ? C'est ce qui rend une prédication vivante, parce qu'autrement, je peux la lire et puis c'est tout, on ferme la Bible, c'est terminé. Mais quand même, je dis que c'est extraordinaire ce qui arrive. Le filet de la foi, entendez bien, c'est pas le filet avec des mailles, mais le filet de la foi revient, et il revient complètement plein, ce qui nous amène à dire que celui qui met sa confiance en Dieu ne sera, selon l'expression du livre des Actes, jamais déçu, ni confus, et que Dieu va au-delà de nos espérances. Parce qu'écoutez la suite, nous voyons qu'ils sont tombés dans une sorte d'émerveillement, accompagné de plaisir, parce qu'ils avaient fait une prise qui conduit les disciples à faire l'inventaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je peux y passer l'après-midi. J'arrive déjà à 153. 153, non, gros poisson. C'est ce que nous rapporte. Plein de 153 gros poissons, et quoi qu'il en eût tant, le filet ne se rompait pas. Alors ça, moi, vous m'envoyez à la pêche. J'ai attendu des heures. Alors, il y a des fois, ça mord. Mais quelquefois, ça ne mord pas. Qui c'est qui est pêcheur? Vous pouvez tous lever la main. Non, mais pêcheur avec l'accent circonflexe sur la tête, hein? D'accord. Le filet ne se rompt pas. C'est encore un deuxième miracle, enfin, parmi les autres. Autre miracle, hein, qui veut que le bénéfice reçu ne se perde pas. Ah oui, parce qu'il aurait pu avoir 200 poissons, il aurait pu avoir plus ou moins. Mais en tous les cas, ça a été retenu, je veux dire. Et ça, c'est parce que Dieu ne veut pas qu'on perde ce qu'il nous donne. Donc le filet, il a tenu le coup. Hein, parce que Dieu est généreux et il ne veut pas que sa bénédiction soit gaspillée. Et c'est dommage quand c'est gaspillé. Alors, Jésus est appelé par discrétion. Pardon, Jean, parce qu'il est dans l'eau. Jean, appelé par discrétion le disciple que Jésus aimait, reconnaît, ou plutôt devine, ou il pressent que c'est Jésus et le murmure à son compagnon Pierre. Et là, nous allons prendre la suite. Il nous est dit donc, un peu plus loin, « Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et il se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. » C'est le Seigneur. Il y en a un dans l'équipe qui a un petit peu plus de perspicacité, du discernement. C'est le Seigneur, et reconnaître la main de Dieu quand il agit s'appelle, bien ce que nous avons dit, du discernement, tout simplement, parce que beaucoup y voient que le hasard ou la chance ou simplement la nature. Il y a des choses qui peuvent être confondantes dans notre vie. Bon, je crois qu'un chrétien ne se pose pas la question. Nous, nous voyons Dieu partout, d'accord ? Quelquefois excessivement, hein. Ça peut arriver. Bon, ça c'est des excroissances, mais une chose qui est certaine, c'est que beaucoup de gens qui sont un petit peu dans l'état moral et spirituel des disciples à ce moment-là, oh, ils se diront à vous, on leur dit, voilà, le Seigneur a fait ça pour moi, oh, dit, c'est le hasard. D'autres diront, mais c'est une coïncidence. Bon, oui, c'est une coïncidence. Allez faire croire des gens comme ça, hein. C'est dur, hein, parce qu'ils sont enracinés, hein. Mais dans le livre des Proverbes, par rapport justement à cette perspicacité spirituelle qu'a eu Jean, il nous est dit au chapitre 3 du livre des Proverbes, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il te bénira. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Voilà. Ça, c'est extraordinaire. Et c'est une question de foi. Vous savez que les indices de Dieu nous environnent sans que nous les voyions, sans que nous en prenions peut-être connaissance. Mais je pense que nous avons besoin de demander à Dieu que nous soyons des curieux. Il y a des curiosités qui ne sont pas très saines, pas très bonnes. Mais moi, je pense que quelque part, quand nous voyons un homme ou une femme avec une curiosité spirituelle, je dis c'est bien. Alors il faut les chercher. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu et se jeta à la mer, en principe. Lorsque l'on se met à l'eau, vous avez compris ce que je veux dire ? On se dévêtit, ce qui est tout à fait normal. Moi, je ne me vois pas tout à l'heure, quand si je vais faire un petit tour pour prendre un peu de soleil, y aller avec mon manteau. Hein. Mais j'ai froid, donc je ne vais pas y aller, parce qu'il fait froid. Mais toujours est-il que c'est comme ça que l'on fait. C'est comme ça que l'on procède. On se dévêtit pour être plus à son aise, c'est normal. Pierre, lui, fait exactement le contraire. De savoir que Jésus n'est pas loin, lui fait sentir combien sa misère et son dénuement moral est grand. C'est la signification à donner. Quand il s'habille pour se jeter à l'eau, tout simplement. Lui, Pierre, parce qu'il a un contentieux, Pierre. Lui, Pierre, qui quelques jours avant avait renié Jésus par lâcheté. À cet instant, il se demande bien s'il pouvait être encore pardonné. Parce que la question, elle est là. Ses oreilles résonnaient encore. « Pierre, tu me renieras trois fois. » Le coq va chanter. Les yeux de Pierre voyaient encore le regard de son maître croisant le sien. Ça fait beaucoup, ça. Pierre se souvenait aussi d'avoir pleuré amèrement. C'est pourquoi il se rhabille. Il ne veut pas être tout nu. Et ça se comprend. Alors, à la recherche du pardon, et pour apaiser sa conscience, il se jette à l'eau pour rejoindre Jésus sur le rivage. Mais il le fait. Il se jette à l'eau. Et est-ce que nous, quelquefois, nous aurions besoin de nous jeter à l'eau au lieu de prendre toutes nos considérations, toutes nos desiderata, nos excuses, nos prétextes, et ceci et cela, en disant « Seigneur, je ne peux pas m'approcher de toi, je suis culpabilisé parce que j'ai fait ceci et cela. » Mais est-ce que Dieu ne peut pas nous pardonner ? Est-ce que Dieu ne peut pas nous enlever notre culpabilité pour que nous nous lancions vers lui et que véritablement, eh bien, il nous pardonne, il nous purifie et fasse de nous une nouvelle personne ? Et c'est ça la question. Tout est là. Alors, à la recherche du pardon, et pour apaiser sa conscience, il se jette, tout simplement. Mais dommage que Pierre n'était pas à la croix. Je vais vous dire pourquoi. Parce que là, c'était la même culpabilité qui l'étreignait. C'est pour ça qu'il s'est tenu en dehors. Pourquoi il n'était pas à la croix ? Parce qu'il aurait déjà eu la réponse qu'il cherchait ce jour-là, le moment où on est en train de lire. Il aurait entendu cette réponse, sortie de la bouche de Jésus, quand Jésus a dit « Père, pardonne-lui parce qu'il ne sait pas ce qu'il a fait. Père, pardonne-leur parce qu'il ne sait pas ce qu'ils font. Ben » Vous savez cette parole, une parole qui lave, une parole qui nous met finalement et bien à l'aise. Conscience tourmentée par un poids trop lourd à porter, Pierre dépose aux pieds de Jésus son péché. Voilà, quand il arrive sur le rivage. Et il ne peut plus, finalement, eh bien là, continuer à vivre avec un tel fardeau. Et c'est quand on est écrasé, c'est quand on n'en peut plus. C'est qu'on ne veut plus vivre comme ça, qu'à ce moment-là, eh bien, on est prêt à recevoir le pardon de Dieu. On est prêt à recevoir la grâce de Dieu, sa faveur et le salut de Dieu, quand on n'en peut plus. Quand on est dégoûté de soi-même, quand on se fait honte à soi-même, quand on se sent sale et souillé. Alors, tout commence. C'est merveilleux, hein ? C'est merveilleux de faire cette expérience. Et quel soulagement, quelle vie nouvelle, et quelle grâce que Dieu va placer maintenant devant nous. Et c'est tout un programme, hein, ce que le Seigneur fait. Alors, cette fois, Pierre ne dira plus « Retire-toi de moi », vous savez, comme dans la barque, la première fois. « Retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Il a au contraire immensément besoin de Jésus. Et il brûle. C'est pour ça qu'il vient vers Jésus. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Ça, c'est la prévenance et la sollicitude du maître pour ceux qui s'approchent de lui. Y compris Pierre et les autres. Y compris vous, y compris moi-même. Tout était déjà préparé. Avez-vous quelque chose à manger ? Mais tout est déjà là. Tout est déjà prêt. Savez-vous que déjà, ce que nous attendons et ce que nous recherchons, mais les choses sont déjà prêtes ? Elles ne sont peut-être pas devant vos yeux, mais elles sont dans le ciel et le Seigneur va les faire descendre pour que vous puissiez vous les approprier. Le feu est prêt, le poisson est prêt, tout est prêt. Il y avait des braises, il y avait du poisson, il y avait du feu, il y avait tout. C'était un miracle vraisemblablement dans un lieu si éloigné de toute habitation, hein, sur le bord de la, de la côte, là, sur le bord du lac. Alors Jésus leur dit, apportez les poissons et que vous venez de prendre. Donc, le poisson va être fourni. Verset 12, venez et mangez. Ce faisant, Jésus désire partager avec eux une grande leçon, par trop souvent oubliée, par les uns et par les autres, c'est connaître mieux ce Dieu souverain et ses possibilités infinies. Tout ce qui est sur le rivage, poisson, pain et tout le reste, la pêche extraordinaire n'est que le produit de la faveur, le produit de la faveur de Dieu, de sa grâce et de son amour. Jésus avait raison quand il a dit à ses disciples, sans moi vous ne pouvez rien faire. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Je termine. Jésus est indispensable à la vie d'un homme, de quelque manière que ce soit. Autant pour sa vie naturelle, manger, boire, dormir, le travail et tout ce que vous voudrez, que pour sa vie morale, aimer, choisir, se conduire, vivre. David l'exprime à travers cette parole, « Tu es mon Seigneur et tu es mon bien souverain. » Ça, c'est la perle de grand prix. Quand notre vie est accrochée à ce que dit David, à cette parole, et que nous le considérons comme eh bien, un véritable trésor, « Tu es mon souverain bien, Seigneur. » On le disait dans une réunion dernièrement, ou dans la prière, « Que ferions-nous sans toi ?» Tiens, ben, on l'a chanté hier. « Que ferions-nous sans toi, Seigneur ?» C'est vrai ? La conclusion est la suivante, puisqu'on a parlé des autres personnages en deux mots. Je voudrais tourner une conclusion sur ces personnages qui étaient là ce matin-là. Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu » puisqu'il le savait. Jésus ne leur a pas dit « Je suis Jésus ». Ils l'ont vu. Ils l'ont reconnu à ce moment-là. Leurs yeux se sont ouverts. Et puis leur cœur également. Mais qui es-tu ? Sachant que c'était le Seigneur. Mais qui es-tu, Seigneur ? Alors nous allons laisser chacun répondre à la question. On a parlé de Pierre. Qui es-tu, Seigneur ? Jésus pourrait lui dire, mais je suis celui qui ôte le péché du monde, le remède à la culpabilité, parce que je suis l'avocat, parce que je suis le pardon de Dieu. Et c'est bien ce que Pierre avait besoin. Qui es-tu, Seigneur ? Eh bien, je suis la réponse. Parce que tu as besoin de ça, eh bien, moi je réponds exactement selon ton besoin. Thomas, on en a parlé. Thomas, le sceptique, le douteur. Qui es-tu, Seigneur ? Thomas pose la question à Jésus, mais qui es-tu, Seigneur ? Eh bien, tu sais, mon brave Thomas, comme tu l'as dit, je suis ton Seigneur et ton Dieu. Heureux celui qui n'a pas vu, mais qui a cru. Thomas, ce que tu as besoin, c'est de la foi. On passe à Nathanaël, il était là aussi. Nathanaël pose la question, mais qui es-tu, Seigneur ? Jésus répond, je suis celui qui a rendu ce témoignage à la vie d'un homme, quel qu'il soit, fut-il Nathanaël, voici un Israélite dans le cœur duquel il n'y a point de fraude. Oui, tu attends Nathanaël, parce que tu es aussi sceptique. Mais moi je te dis que je suis capable de lire dans le cœur d'un homme, d'une femme, d'un jeune homme, d'une jeune fille. Je suis capable de lire partout. Et moi je te dis, Nathanaël, eh bien, je sais que tu es un Israélite dans le cœur duquel il n'y a point de fraude. Jean et Jacques disent, mais qui es-tu, Seigneur ? Eh bien, Jésus va répondre, je suis le Fils de Dieu. Ces choses ont été écrites, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Voilà la réponse. Qui es-tu, Seigneur ? Eh bien, la réponse, elle est là. Et puis, les deux derniers, dont on ne connaît pas le nom, les deux derniers disciples qui étaient là, anonymes, qui représentent tous les hommes de tous les temps, à travers un cri qui monte des poitrines de l'humanité entière, mais qui es-tu, Seigneur ? Eh bien, Jésus répondra, « Je suis le sauveur du monde. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Merci, Seigneur, de ce que tu nous as parlé cet après-midi encore. On va prier simplement. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que... Où es-tu, Seigneur ? Mais tu es si près de moi et je ne t'ai pas vu, je ne t'ai pas reconnu. Mais qui es-tu, Seigneur ? Mais tu es... Tu es véritablement, je peux le comprendre, je peux dire que tu es mon sauveur, tu es le Seigneur de ma vie, tu es celui qui règne au siècle des siècles, tu es mon pardon, tu es ma délivrance, tu es ma guérison, tu es véritablement l'amour parfait, total, complet, Seigneur, dont les cœurs des hommes ont immensément besoin. Ô, tu es la vie éternelle, et nous te bénissons et nous te rendons grâce, parce que tu es parti, parce que tu reviens, et tu viens nous prendre avec toi dans la félicité de l'éternité. Merci Jésus, tu nous bénis maintenant, tu nous fais du bien avec ces paroles, et nous voulons vraiment nous tourner vers toi et te faire toujours de plus en plus confiance.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.